Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, un 11 novembre oublié, le 11 novembre 1940.
Celui qui ne se rend pas a toujours raison contre celui qui se rend. Charles Péguy, texte diffusé dans un tract en juin 1940.
D'histoire. Le 11 novembre 1918, en forêt de Compiègne, dans le wagon qui servait de quartier général au maréchal Foch, une délégation du gouvernement allemand signait l'armistice par lequel se terminait la Première Guerre mondiale. Depuis ce jour, devant tous les monuments aux morts de France, on a commémoré 84 fois la fin de ce qui fut pour la France le conflit le plus meurtrier de son histoire. Mais de tous les 11 novembre, le plus émouvant peut-être est celui qui s'est produit en 1940 en plein Paris, malgré l'interdiction des autorités allemandes d'occupation. Ce jour-là, le 11 novembre 1940, vers 17h, dans toutes les rues et les autobus et les métros parisiens, quelques centaines d'étudiants et de lycéens se dirigeaient vers la place de l'Étoile, sans savoir encore qu'ils participaient à la première grande manifestation de la résistance française.
Monsieur Grodin ?
De Drodin, ils arrivent avec Henri IV.
Et Montaigne ?
Ils sont déjà sur la place de l'Étoile.
Tiens, Pierre, regarde un peu ça.
Ah, c'est formidable. Allez, on y va.
Allez, viens.
Venez, monsieur. C'est pour la manifestation du 11 novembre.
Merci.
Allez.
Étudiant de France, le 11 novembre est resté pour toi un jour de fête nationale. Malgré l'ordre des autorités opprimantes, il sera jour de recueillement. Tu n'assisteras à aucun cours, tu iras honorer le soldat inconnu à 17h30.
Pierre Lefranc, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été chef de cabinet du général de Gaulle en 58 et un de ses plus proches collaborateurs pendant de longues années. Mais en 1940, vous aviez 18 ans, vous étiez étudiant et vous avez participé à cette manifestation du 11 novembre 1940 dont nous allons parler avec vous. Qu'est-ce que vous vouliez faire ce jour-là? Rendre hommage aux morts de 14-18 ou défier les Allemands?
Vous savez, on a un petit peu le mal à se rendre compte aujourd'hui ce qu'a représenté la défaite de la France. C'est en un mois de temps, tout ce 40. À quoi nous croyons, depuis le 10 mai 40 jusqu'au 10 juin, tout ce qui constituait la structure de notre pays depuis notre enfance, a disparu, a été volatilisé. Et nous avons ressenti de cet effondrement une humiliation considérable. Nous n'étions pas responsables de ce qui se passait, bien entendu. Et subitement, nous nous trouvions dans le désert et même devant l'humiliation. Donc, par conséquent, c'était un réflexe de colère, de sursaut qui nous a motivés. Et je vous le rappelle, comme on avait fermé les facultés, eh bien, on a cherché un autre moyen de s'exprimer.
Alors, on peut dire que vous êtes un résistant de la première heure, Pierre Lefranc. De quand date votre volonté de lutter contre l'occupation? Est-ce que c'est l'appel du général de Gaulle?
Mais écoutez, je n'ai pas entendu l'appel du 18 juin. J'ai simplement lu dans un journal, j'étais en province à ce moment-là, réfugié, qu'un général français avait parlé à la radio de Londres. Alors, à partir de ce moment-là, je me suis précipité sur les émissions de Londres, qu'on avait un peu de mal à attraper parce qu'on était dans le centre de la France et qu'on n'avait pas les appareils qu'on avait maintenant. Et j'ai entendu les discours qui ont suivi. Alors, à partir de ce moment-là, il y avait un phare qui éclairait notre chemin.
Alors, à l'époque, quand même, vous n'étiez pas très nombreux. Hein, Pétain avait plus de succès que le général de Gaulle, dont très peu de gens connaissaient en fait le nom. Et puis alors, au tout début, la résistance, n'ayant pas de véritable chef à l'intérieur de la France occupée, elle se manifeste de manière presque dérisoire, en tout cas, elle a peu de moyens. Vous-même, je crois que très tôt, tout seul, sur une machine à écrire, vous rédigez votre premier tract dès l'été 40.
Oui, oui, c'est exact. Nous n'avions pas d'autre moyen d'exprimer que l'écriture à ce moment-là, avant la manifestation de novembre. Donc, par conséquent, j'ai pris ma plume, et tant bien que mal, j'ai rédigé un tract, et j'ai loué une machine à écrire, et de deux doigts, j'ai écrit ce premier papier qui a été diffusé dans les boîtes aux lettres de la ville de Brive-la-Gaillarde où je résidais à ce moment-là. C'était rien, c'était anodin, si vous voulez. C'était presque ridicule, mais ça soulageait.
Vous étiez à ce moment-là dans le sud de la France, vous vous rendez alors à Paris pour suivre des cours à Sciences Po, parce que là, vous découvrez les Allemands, la zone sud n'était pas encore occupée, mais dans le nord, il y a des Allemands, vos premiers Allemands, vous les rencontrez en fait sur la ligne de démarcation, Pierre.
Je les rencontre à Vierzon, ouais. À Vierzon qui était la ligne de démarcation, et le train qui nous amenait à Paris passait par Vierzon, et la gare de Vierzon était très occupée, il y avait des Allemands partout, près des signaux, sur les quais, et le choc quand même qui a été le plus fort, c'est de voir le drapeau nazi flottait sur l'Assemblée nationale et en haut de la Tour Eiffel. Mmh. Ça, vraiment, là, on se heurtait à une réalité. Alors, les Allemands dans les rues, oui, mais enfin, il n'y en avait pas tellement, mais là, le drapeau nazi qui frottait sur l'Assemblée nationale, c'était vraiment le signe de la défaite.
Il faut rappeler, je crois, que toute manifestation de patriotisme était interdite. Pierre Lefranc, on n'avait pas le droit de manifester dans les rues, comme vous le ferez le 11 novembre 40. La Marseillaise était interdite. Est-ce que c'est ça qui vous a choqué aussi?
Ce qui m'a choqué, c'est la disparition de tout ce à quoi je croyais depuis ma plus tendre enfance. Il faut se rappeler que notre génération avait été bercée par les souvenirs héroïques de la Grande Guerre, qu'on célèbre aujourd'hui. Et par conséquent, c'est cette gloire de la France, cet engagement total de la nation, était quelque chose qui avait marqué notre enfance. Et subitement, tout ça s'effondre. On a du mal, je le répète, à l'imaginer, et c'est devant ce vide insupportable, vraiment quelque chose qu'on ne pouvait pas concevoir, que la seule réaction, c'était la colère, dans la mesure où on pouvait l'exprimer.
Alors, vous ne pouvez pas l'exprimer, en tout cas, vous ne pouvez pas vous manifester le 11 novembre 1940, pardon, à Paris, c'est interdit. En revanche, en zone sud, le 11 novembre 1940, Pétain se trouve à Clermont-Ferrand pour y commémorer l'armistice de 1918.
11 novembre. 11 novembre 1940, jour de deuil, un jour que nous devons dédier à nos morts de guerre. À 11h ce matin, M. le maréchal Pétain, chef de l'État français, nous montrait dans la cathédrale de Clermont-Ferrand l'exemple d'une émotion intense et digne d'un pieux recueillement où se lisait l'espérance. Le maréchal Pétain avait tenu à se rendre ce matin aussi au monument du Poilu qui se dresse, hardi, fier, non loin de la gare. Non, il ne faut pas que ce 11 novembre 1940 ne soit qu'un jour de deuil. Le soleil qui s'était dégagé des nuages pendant ces dernières minutes a semblé créer des rayons d'espérance. De cette espérance qui ne peut manquer de monter dans nos cœurs lorsque le maréchal Pétain rayonne au-dessus de nous et que tous l'acclament de leur cri.
Aujourd'hui, la manifestation du 11 novembre 1940 avec Pierre Lefranc.
Et c'était une chanson à succès de 1940, Réventura, dans mon cœur, un tendre espoir fleuri. En écoutant cette chanson, et surtout en écoutant Pétain, le 11 novembre 1940, je vous ai vu sourire, Pierre Lefranc, un peu attristé en même temps.
Ben, il y avait quand même une tromperie gigantesque, n'est-ce pas, de parler de la France et de la patrie à un moment donné où Paris était occupé, où un coup d'État avait eu lieu en juillet... 10 juillet pour supprimer la démocratie, où on avait donné remis le sort de la France à un vieillard de 84 ans. Non, vraiment, là, cette duperie affreuse de Vichy a coûté très cher à la France. Elle a coûté cher parce qu'elle a semé le désarroi et que beaucoup de Français, patriotes, ont suivi cette mauvaise voie.
Alors Pétain, le 11 novembre 40, commémorait, on l'a entendu, l'armistice donc du 11 novembre 18, alors que vous prépariez le même jour, un 11 novembre, sur les Champs-Élysées, avec des étudiants. De qui est venue cette idée d'une commémoration interdite du 11 novembre, Pierre? Pierre Lefranc?
D'abord, elle est venue des autorités universitaires qui ont interdit toute manifestation à l'intérieur des facultés. D'abord, il y avait une règle générale qu'on ne pouvait pas manifester dans la rue, etc., en présence des Allemands, bon, très bien. Mais en plus de cela, le recteur de l'Université de Paris a interdit toutes les manifestations devant les monuments aux morts qui sont dans toutes les facultés. Donc, par conséquent, nous n'avions pas de lieu où dire notre attachement à notre pays et notre espérance pour l'avenir. Donc, comment et par qui c'est venu, je ne saurais pas vous le dire. Tout ce que je sais, c'est que j'ai passé plusieurs heures à tirer des tracts dans le sous-sol. Non, j'ai tiré les tracts, non pas à Sciences Po, mais à la faculté de droit de la rue Saint-Jacques, où dans le sous-sol, il y avait des machines à polycopier à disposition des étudiants, et c'est là que les premiers tracts, à ma connaissance, ont été tirés.
Alors, il y a eu aussi, parce que les communistes ont beaucoup dit qu'ils avaient organisé ce 11 novembre 40, on ne sait pas très bien qui l'a organisé du coup.
Écoutez, je ne sais pas ce qu'ils ont fait eux, moi je sais ce que nous avons fait nous, et nous n'étions pas communistes, loin de là.
Alors, ça s'est diffusé aussi par le bouche à oreille. Est-ce qu'on a une idée à peu près du nombre des manifestants? Vous êtes arrivé à peu près à quel moment, puisque le lieu de rendez-vous c'était les Champs-Élysées, sur les Champs-Élysées le 11 novembre 40?
Moi je suis arrivé bien avant l'heure du rendez-vous, nous avons fait un petit pèlerinage à l'Arc de Triomphe, où beaucoup de Parisiens avaient déposé quelques fleurs. Il y a eu quelques marchands de fleurs, des petites voitures, vous savez, qui ont eu l'idée de vendre des petits bouquets tricolores. C'était une bonne idée commerciale ce matin-là. Et alors les Français et les Parisiens en ont acheté et sont venus déposer sur l'Arc de Triomphe. Alors d'abord, nous sommes montés là. Il devait être, je sais pas, 4h30, 5h moins 4, quelque chose comme ça, et pour nous recueillir un instant en ce lieu. Et puis après, nous sommes redescendus et remontés à plusieurs reprises. Alors le nombre, pour répondre à votre question, c'est quasiment impossible à évaluer. D'abord, il y avait des passants, il y avait des gens qui se passaient par les Champs-Élysées, qui n'étaient pas là pour manifester, et il y avait des jeunes, il y en avait combien, impossible à savoir, il y avait des lycéens, impossible à savoir combien non plus, et puis naturellement, il y avait des Allemands, dont on ne peut pas savoir non plus quel nombre il y avait à ce moment-là, puisqu'ils étaient dans les magasins ou dans les cafés.
Vous avez assisté à une scène étonnante, je crois, d'un balayeur qui a pris à partie un officier allemand.
C'est exact. Ça a été pour moi un vrai symbole, si vous voulez. Ce brave homme qui était là en train de balayer les trottoirs, les Champs-Élysées, était pris d'une sainte et admirable colère, et soit mis à taper avec son balai sur la tête des Allemands, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et d'admirable.
Alors évidemment, la radio de Vichy et la radio allemande n'ont pas enregistré cette manifestation, ils n'en ont d'ailleurs même pas parlé, mais nous disposons du souvenir quand même d'un certain nombre de jeunes qui étaient avec vous en même temps sur les Champs-Élysées, le 11 novembre 1940, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Et ce 11 novembre 1940, les manifestants, ces jeunes, savent les risques qu'ils prennent. La veille, on lit dans la presse ce communiqué de la préfecture de police. Ce 11 novembre, à Paris, les cérémonies commémoratives n'auront pas lieu. Aucune démonstration publique ne sera tolérée. Alors Jean Michaud, qui est alors en classe prépa au lycée Janson de Sailly, décide, comme d'autres, de passer outre. Nous devions tous nous rassembler après la fin des cours devant le lycée, raconte-t-il. Drapeau tricolore en tête, nous avons parcouru en cortège l'avenue Victor Hugo. L'esplanade de l'Arc de Triomphe était noire de manifestants. Et c'est au moment où j'y prenais pied que les coups de feu ont éclaté. Dans l'avenue des Champs-Élysées, des Allemands en uniforme circulaient en zigzag sur les trottoirs et sur la chaussée à bord de voitures militaires pour disperser les manifestants. Alors ce Jean Michaud est rapidement arrêté et embarqué par les Allemands. Un autre étudiant, François de Lescure, se trouve sur les Champs-Élysées. À 17h exactement, dit-il, un cri énorme, « Vive la France !» éclate à la hauteur du cinéma Georges V. On chante la Marseillaise, suivi du chant du départ, puis de « Abba Pétain, Abba Hitler !» Nous sommes étonnés de voir à quel point le cortège grossit. Coups de sifflet, désordre, hurlés en allemand, l'arme au poing des SS jaillissent du cinéma Le Biarritz, des convois débouchent des rues transversales, les mitrailleuses sont mises en batterie sur la chaussée, les Allemands matraquent et chassent les manifestants à coups de crosse de fusil, la manifestation continue, exaspérés, les nazis tirent, ils assassinent une dizaine de jeunes, affirme François Descure, ce qui est controversé, et en blessent davantage encore, la chasse à l'homme continuera tard dans la nuit. Alors pendant ce temps, Jean Michaud, subit un interrogatoire musclé. Qui a organisé la manifestation? Réponse générale, je ne sais pas, je l'ai appris par la rumeur publique. À la prison du Cherche-Midi, après un deuxième passage à tabac, Jean Michaud est conduit par des soldats ivres au peloton d'exécution avec 5 autres garçons. C'est là, dit-il, que j'ai cru ma dernière heure arriver. Le peloton a pris position derrière nous. J'ai entendu quelques ordres, des aboiements et des bruits de culasses qu'on manœuvre. Soudain, un militaire fait irruption dans la cour. Il est furieux et crie « Bande d'ivrognes !» On nous a ensuite emmenés dans des cellules. Ce général a dû se dire qu'il n'y avait aucune urgence à donner des martyrs au pays occupé. Alors Jean Michaud reste presque un mois en prison, hein, puis il retourne au lycée où il est très mal accueilli. D'une façon générale, dit-il, les gens disaient « Avec vos gamineries, vous allez nous faire arriver des histoires. » Au lycée, les profs nous en voulaient. À cause de vous, les étudiants ont été privés de cours. Il y avait bien quelques profs qui étaient pour, mais ça n'allait pas plus loin qu'une tape sur l'épaule et un « C'est bien mon petit ».
Un commentaire sur ses souvenirs, Pierre Lefranc, par exemple, François Lescure qui parlait de mort. Est-ce qu'il y a eu des
morts? Non, je n'ai pas les mêmes souvenirs que Lescure. Ce que nous avons vu, nous, c'est une compagnie qui montait de la place de la Concorde, parfaitement en ordre, avec des officiers, et qui est montée jusqu'à l'étoile. Là, cette compagnie s'est mise en un demi-cercle autour de l'Arc de Triomphe, et effectivement, ils nous ont chargés et ils ont tiré. Mais ils ont tiré. Il y a eu quelques blessés par balle, ça c'est certain, je les connais. Mais ils n'ont pas tiré dans la masse, car s'ils avaient tiré vraiment dans la masse, il y aurait eu 200 morts. Donc ils ont tiré, à mon avis, en l'air. Car quand j'ai pris la rue de Presbourg, j'ai vu des éclats sauter de la façade de ce qui est devenu qui était l'hôtel Majestic. Donc par conséquent, c'est vrai qu'ils ont tiré, mais ils n'ont pas tiré dans la masse, parce qu'ils nous auraient tous tués, et je n'ai pas vu non plus tous ces pièges et toutes ces forces allemandes venant des rues avoisinantes. Mais enfin, bon, je ne discute pas le témoignage de Lescure, enfin c'est pas celui que je puis apporter.
Alors vous-même, vous avez été blessé, je crois, par
une grenade.
Vous avez été renfermé 3 semaines à la prison de la Santé pour avoir participé à cette manifestation. Gaulliste, vous dites, on n'a pas entendu les témoignages, mais qu'on a également crié « Vive de Gaulle !»
Bien sûr, on a acclamé de Gaulle, c'était le point de ralliement moral, si vous voulez. Donc, par conséquent, c'est vrai que Pétain a été sifflé, mais c'est certainement de Gaulle qui a été le plus acclamé.
En tout cas, à Londres, évidemment, l'affaire a fait grand bruit. Écoutez ce qu'en disait en 1995 celui qui, de Londres, dans les années 40, parlait aux Français occupés, Maurice Schumann.
Chaque fois que j'ai rencontré un de ceux qui avaient participé à la journée du 11 novembre 1940, j'ai été étonné de constater qu'il ne se rendait pas compte de l'importance mondiale, j'insiste sur l'adjectif, qu'avait revêtu leur courageuse attitude et leur précieuse initiative. Les États-Unis n'étaient pas en guerre. Par conséquent, il y avait des correspondants de presse américains à Paris qui ont relaté l'événement. Et je dois dire, moi personnellement, qui était à l'époque le porte-parole du général de Gaulle, qu'il y a avant le 11 novembre 40 et après. Avant le 11 novembre 40, je ne savais pas en réalité ce qu'étaient les réactions de mes auditeurs. Après le 11 novembre 40, j'ai su qu'une élite était en quelque sorte suspendue à nos lèvres, non pas à cause du talent des orateurs, mais exclusivement parce que c'était la voie de la liberté.
L'importance du 11 novembre 1940 dans l'histoire de la résistance, Pierre Lefranc, je sais que quand vous avez rejoint le général de Gaulle à Londres, et même plus tard, quand vous avez été auprès de lui comme chef de cabinet, il vous a parlé de ce 11 novembre auquel vous aviez participé.
Ce que dit Maurice Schumann est parfaitement exact. Nous ne nous rendions pas compte de la répercussion que pouvait avoir cette manifestation. Car le soir, quand nous nous sommes retrouvés dans nos cellules, on a pensé vraiment que nous avions eu un piètre résultat. Mais c'est vrai que cette première réponse de la France à De Gaulle, parce que De Gaulle s'est adressé à la France par la radio, de nombreuses fois naturellement, mais la France ne pouvait pas répondre, et la France ne répondait pas. Or là, ça a été la première réponse publique, c'est le général De Gaulle qui a bien voulu me le dire, la première réponse publique de l'opinion française. Et en plus, cette réponse, elle venait des jeunes. Donc, par conséquent, de gens qui avaient l'avenir devant eux. Et je crois, il l'a bien voulu me le dire aussi, que cette réponse l'a conforté dans son action et que, en effet, des gens avec le talent de Maurice Schumann ont su lui donner une répercussion presque mondiale.
En tout cas, en novembre 40, vous étiez encore à Paris. Vous avez rejoint le général de Gaulle, je crois, qu'en 1943. Pierre Lefranc, après une escale, enfin, si je puis dire, en Espagne, vous êtes passé par l'Espagne, vous avez été arrêté par les Espagnols, c'était l'Espagne franquiste. Vous avez fait, je crois, plusieurs semaines à la prison de Miranda. Mais, six mois à Miranda. Mais en même temps, quand vous étiez dans le sud de la France, vous adhérez à un mouvement qui deviendra le mouvement combat. Il y a d'autres jeunes aussi qui choisissent d'autres voies. Il faut dire qu'à l'époque, en 1940, la jeunesse était déjà très sollicitée par le régime de Vichy.
Au cours d'une tournée, le secrétaire général à la jeunesse, M. Georges Lamiran, a visité le camp de la Valette qui forme une partie des chefs des futurs chantiers où s'élabore l'esprit des hommes de demain.
Nous faisons le serment.
Nous faisons le serment.
De nous unir.
De nous unir.
Et de mettre toutes nos forces.
Et de mettre toutes nos forces.
Notre foi.
Notre foi.
Notre ardeur.
Notre ardeur.
Au service du maréchal.
Au service du maréchal.
Au service de la France.
Au service de la France.
Une veillée autour du feu de camp clôturait ces trois journées où la volonté de discipline des jeunes et leur union autour de leur chef se sont affirmées une fois de plus.
La neige et les rochers s'étaient unis pour la marche. Là-haut sur la montagne, roula le vieux chalet.
C'était une archive de 1940 sur les chantiers de jeunesse. Pierre Lefranc, on voit quand même que tous les jeunes, pour beaucoup de jeunes, le maréchal était quand même une référence, le maréchal Pétain. Pas pour vous, bien sûr.
Bah, c'était une référence nationale. Moi, je me souviens, aux sciences politiques, le maréchal Pétain est venu en 39 faire une conférence. Donc la France était en guerre déjà. Maréchal Pétain n'avait pas de commandement. Il était simplement président du Conseil supérieur de la défense nationale. Et il est venu faire une conférence sur la défense nationale aux Sciences Po. Il a eu une ovation. Tout le plus grand amphithéâtre, l'amphithéâtre Boutmy des Sciences Po, était debout et l'a acclamé. Quand on avait entré ce personnage historique en bleu horizon, avec sa médaille militaire, il était magnifique physiquement, en plus.
Comme on entend chef en 14-18.
Oui, non, puis c'était un homme qui était beau physiquement. Donc quand on l'a vu entrer sur la scène, sur l'estrade de l'amphithéâtre, ça a été une explosion de bravo et d'acclamations.
Mais justement, comment se fait-il qu'un an plus tard, cet homme, vous éprouviez de l'aversion quand vous l'entendez, par exemple, le 17 juin, dire il faut signer la paix avec l'Allemagne, et surtout à Montoire, quelques semaines plus tard, annoncer la collaboration?
Ben, il a failli, voilà, cet homme était nimbé de gloire à nos yeux, à tous, et il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Ce qu'un Laval pouvait faire, à la rigueur, ça nous était égal, mais pas le maréchal Pétain quand même. Il représentait la victoire de 14-18, c'était un beau soldat, c'était un homme qui paraissait irréprochable, et voilà subitement qui s'incline et qui va serrer la main d'Hitler, c'est inadmissible.
Autre question, Pierre Lefranc, vous, au lieu de rester dans le sud de la France où vous êtes rendu après la manifestation du 11 novembre 40, vous décidez de partir à Londres. Pourquoi n'êtes-vous pas resté auprès du mouvement combat au début duquel vous êtes trouvé?
Mais j'étais un jeune étudiant et j'aurais voulu avoir une espèce de légitimité. Je me suis rendu compte qu'étant jeune étudiant dans une grande machine qu'allait être la résistance, je ne serais rien si je n'avais pas une légitimité, si vous voulez un grade, si vous voulez une position. Donc j'aurais souhaité pouvoir me battre avec une expérience et une crédibilité que je n'avais pas comme jeune étudiant. C'est pour ça que j'ai pensé qu'en ralliant la France libre, je pourrais là suivre des cours, obtenir des missions, et c'est ce qui est arrivé. Donc, je vous ajouterai une chose d'amusant en ce qui concerne le mouvement Liberté qu'on a créé.
Liberté, c'est le premier nom qu'a eu Combat.
Le premier nom qu'a eu Combat. Et je ne connaissais pas le patron. On était là, on faisait des distributions de tracts, on essayait de faire un peu de propagande, etc. Mais on ne savait pas qui a été le patron du petit mouvement. Et il s'est trouvé que le patron, le jour où je me suis trouvé en présence du patron du petit mouvement, c'était mon professeur de droit constitutionnel à la faculté de droit de Montpellier. C'était Pierre-Henri Tedjen, qui a été un des fondateurs, comme vous le savez, de Combat. On n'avait jamais imaginé que ce professeur qui nous apprenait la différence entre la Deuxième et la Troisième République était le chef secret de notre petit mouvement.
Alors vous le quittez donc pour partir à Londres via l'Espagne, vous partez en 42, vous faites plusieurs mois donc effectivement à la prison de Miranda en Espagne avant de vous rendre auprès du général de Gaulle. L'accueil que vous avez reçu, la première fois que vous avez rencontré le général de Gaulle, auprès duquel vous allez rester pendant des années ensuite, Pierre Lefranc.
Ben, ça se passe à Gibraltar. Nous étions libérés par les Espagnols, qui voyaient d'ailleurs que le sort de la guerre était en train de se changer, donc il valait mieux prendre quelques précautions. Donc ils nous ont libérés et on s'est retrouvés sur un bâtiment de guerre américain en rade de Gibraltar. Et De Gaulle, qui partait en Afrique du Nord, a su qu'il y avait des évadés de France qui étaient là et est venu nous voir. Alors nous n'avions jamais vu de Gaulle, on n'avait même pas vu de photographie à l'époque du général. Et alors on a vu ce grand personnage, là, et à l'époque il était très, très mince, monter à bord, non sans difficulté d'ailleurs, il a failli tomber à l'eau, mais enfin ça c'est une anecdote, et monter à bord et il nous a rassemblés dans la grande salle à manger de ce bâtiment, et il nous a tenu un discours qui nous a un tout petit peu secoué. Parce que nous nous attendions, je vous le dire sincèrement, à quelques compliments, car finalement, on avait fait quelque chose déjà en France, on sortait de prison, le temps nous avait quand même paru long, on s'attendait à quelques compliments, et bien non. Il nous a reproché d'avoir mis beaucoup de temps à venir le rejoindre, il nous a dit que nous n'avions encore rien fait, que tout restait à faire, et que d'ailleurs, vraisemblablement, à la fin, nous ne serions pas tous aussi nombreux.
Et vous êtes resté quand même avec lui pendant des années, Pierre Lefranc.
Ben, finalement, si vous voulez, ce discours nous a plu parce que c'était un discours qui s'adressait à des hommes responsables.
Merci en tout cas, Pierre Lefranc, de nous avoir rappelé vos souvenirs du 11 novembre 1940, et puis ce que vous avez fait avant et après et depuis. Je rappelle qu'on retrouve vos souvenirs dans plusieurs livres, difficiles à trouver parce qu'ils sont déjà anciens. Voici tes fils, c'est Le vent de la liberté, donc deux livres de Pierre Lefranc édités chez Plon, ainsi que de nombreux livres sur le gaullisme et le général de Gaulle que vous avez écrit, Pierre Lefranc, avec de Gaulle, publié aux éditions Pocket, La France dans la guerre, publié chez Plon, et La tentation de Charles de Gaulle chez Flammarion. À lire également un très beau livre illustré de photos et de documents, Les résistants, dirigé par Robert Belot, est publié chez Larousse. Enfin, je voudrais évoquer le souvenir d'un légionnaire qui n'a jamais capitulé en 1940, vainqueur quand même, de Luce René Coupin, publié à la Société des Écrivains. Enfin, vous avez entendu un extrait du film d'Yves Boisset, Jean Moulin, une vidéo distribuée par France Télévisions, ainsi qu'un extrait du disque 11 novembre 1940, une coédition de Frémaux et Associés et Institut des Archives Sonores.